auditeurs, auditrices de FM+, l'invité d'aujourd'hui est né en 1956 à Montpellier. Il a publié 4 romans entre 1998 et 2011, 4 essais entre 2013 et 2020. Et nous allons nous intéresser au dernier d'entre eux, « Les hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault », un essai publié aux éditions du Papillon Rouge. Bonjour Raymond Alcovert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans cette matinale, une matinale encore en visio. On le regrette, mais voilà, on se plie aux recommandations gouvernementales.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis on prend l'habitude finalement. On prend l'habitude. Alors, finalement, les Héraultais qui ont fait l'histoire ont donc une suite avec ces hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault, Raymond Alcovert.
Oui, alors si tu fais une suite, oui, c'est disons plutôt un autre regard, c'est-à-dire que là, au lieu d'aller ces Héraultais, j'étais parti de personnages.
Oui.
Je pars de lieux, en fait, mais de lieux où ont eu lieu des événements, en fait. Des lieux, ce sont des lieux et des événements qui ont marqué un petit peu l'histoire du département, et c'est une façon donc de raconter un petit peu l'histoire de notre département, mais à travers des événements un peu phares.
Alors, comment est-ce que vous, Raymond Alcovert, vous avez pris connaissance de ces lieux ? Alors, vous avez une bibliographie très importante à la fin du livre, mais peut-être pas seulement par les livres, peut-être aussi en s'y rendant.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, donc il y a évidemment, bon, il y en a certaines que je connaissais, et puis bon, vous savez, quand on fait une recherche, on découvre des choses. Donc j'ai découvert des nouvelles choses, et puis je me suis aussi déplacé. Évidemment, c'est quand même mieux quand on raconte une histoire liée à un lieu d'aller sur place, évidemment. Oui, non, et la bibliographie, ben évidemment, on découvre aussi des choses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de choses à la médiathèque Émile Zola, par exemple, à Montpellier, où il y a tout un étage consacré à l'Occitanie. Il y a vraiment beaucoup de ressources.
Alors, lorsque je vais prendre comme ça des lieux sur lesquels moi aussi je me suis arrêtée à travers votre livre, alors lorsque vous écrivez sur l'oppidum dans ses ruines au sud-ouest de l'Hérault, vous mentionnez que le tunnel du Malpas est le premier tunnel au monde creusé pour un canal. Alors, est-ce que le côté unique, exceptionnel, a été l'un des critères de choix de ces lieux liés à des événements ?
Oui, bien sûr, il fallait quand même que ce soit… Bon, il y a 45 récits, il faut que ce soit intéressant, qu'il se passe quand même des choses un petit peu hors du commun. Donc, c'est effectivement un des critères que j'ai choisi, que ce soit un petit peu soit que ça sorte de l'ordinaire, soit que ce soit vraiment intéressant ou vraiment fondateur de l'histoire du département. Bon, vous vous en doutez, il faut aussi croiser avec le critère de géographique, c'est-à-dire effectivement que ça ne se passe pas uniquement à Montpellier, Sète ou Béziers, par exemple. Il faut couvrir tout le département, essayer de couvrir aussi toutes les époques, puisque ça part de la préhistoire à l'histoire la plus récente aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Vous parlez vraiment du patrimoine historique de l'Hérault et vous nous dites qu'il est foisonnant grâce au monument mégalithique apparu vers 3500 avant Jésus-Christ. Vous nous le dites, on est page 27 de votre livre. Et vous nous dites aussi que les dolmens, ils sont plus nombreux que dans toute la Bretagne. Alors voilà, vous vous amusez à faire tomber des clichés géographiques finalement.
Et oui, bien sûr, parce qu'évidemment, on a l'image de la Bretagne telle qu'avec tous ces dolmens, à cause d'Astérix aussi. Mais oui, en fait, on fait des découvertes. Ce département, plus je travaille dessus, plus je m'aperçois qu'il est d'une richesse inouïe, en fait, que ce soit d'un point de vue géologique, écologique, historique, géographique. En fait, bon, vous savez comment c'est, quand on commence à creuser, plus on creuse, plus on découvre de choses. Et vraiment, j'ai fait moi-même, en travaillant, bien sûr, des découvertes étonnantes, oui, comme celle-ci.
Ouais. Alors, pour un natif de Montpellier, c'est très heureux.
Oui, bien sûr. Oui. Il y a toujours un brin de chauvinisme là qui vient.
Alors,
que Montpellier soit une ville ouverte quand même, donc ça ouais. J'y tiens aussi. Donc, on est quand même aussi… Et puis, c'est un… Non seulement Montpellier, mais enfin, géographiquement, ça s'impose, et historiquement aussi, c'est un lieu de passage, notre département, enfin, toute cette bande littorale. Donc, effectivement, il n'a cessé d'être envahi. Donc, il y a un grand nombre d'influences qui ont modelé, en fait, notre histoire. Et on le voit encore aujourd'hui, de plus en plus, à la limite.
Alors, vous évoquez Montpellier. J'ai vu aussi que… Montpellier, vous l'abordez, et je trouve ça très intéressant, par la place Jean Jaurès. Donc, c'est amusant d'y entrer comme ça dans Montpellier. Ensuite, on retrouvera Montpellier à plusieurs endroits du livre. Hein. C'est aussi l'intérêt de la construction de votre livre d'une façon historique. On retrouve cette ville. Vous y revenez avec les Trois Grâces, vous y revenez avec la faculté de médecine, le thème de la parfumerie, Jacques Cœur, la peste, la promenade du Pérou. Alors, pourquoi avoir commencé l'entrée de Montpellier par la place Jean Jaurès? Qu'est-ce que ça dit de Montpellier, cette place?
Elle dit surtout qu'elle était le lieu de l'église Notre-Dame-des-Tables qui a été fondatrice en fait de Montpellier. Parce qu'au départ, Montpellier était située sur le Camino Rumieux, c'est-à-dire le chemin de Saint-Jacques à Rome, donc c'est un lieu de pèlerinage, bien sûr. Et assez vite, la ville s'est construite autour de cette église Notre-Dame-des-Tables, où figurait notamment cette fameuse Vierge Noire, qui d'ailleurs, cette Vierge assise fait toujours et le blason de Montpellier, ce qui est assez, assez rare en fait, un blason de ville où il y a comme ça une image religieuse. Donc Montpellier est sous le signe de la Vierge Marie. Et donc, et peu à peu, il s'est avéré que cette Vierge Noire accomplissait beaucoup de miracles. Et donc, il y a eu une dévotion qui s'est installée autour de cette église et de cette Vierge. En plus, il y a un des Guillaume, un des seigneurs de Montpellier, qui a ramené un morceau dit de la vraie croix, qui a encore accru, si vous voulez, cette notoriété. Et bon, enfin, les historiens, enfin, les chroniques de l'époque montrent que apparemment, il y avait beaucoup de miracles qui se passaient autour. Donc voilà, ça a été, bon, on a un peu du mal à l'imaginer, mais c'était le centre, en fait. Bon, c'était sur une colline, en plus. C'était vraiment le centre de Montpellier, cette église Notre-Dame-des-Tables. Alors plus tard, elle est devenue, bon, j'en fais toute l'histoire, place Jean Jaurès, bien plus tard, évidemment.
Oui, donc c'est vrai que là, voilà, vous reconstituez vraiment l'histoire de ces lieux. Lorsque vous évoquez toutes ces thématiques autour de Montpellier, laquelle aurait votre préférence pour en parler ce matin? La parfumerie, Jacques Cœur?
Oui, alors bon, on peut parler de tous les sujets que vous voulez. Moi, celui qui m'a le plus surpris, c'est celui que j'ai découvert, c'est effectivement cette histoire c'est la parfumerie.
Oui.
Donc Montpellier a été au XVIIe ou XVIIIe la capitale de la parfumerie. Et avant d'être après supplantée par Grasse, évidemment, qui pour tout le monde maintenant est effectivement la ville du parfum, mais Montpellier a eu cette place prééminente et voilà, on ne le sait pas trop, c'est intéressant. Bon, c'est évidemment lié aussi à la médecine, puisque tout ce qui est de l'ordre de l'herboristerie, de la botanique est lié à la médecine, à l'histoire de Montpellier aussi, donc ça a un certain nombre de... Puis le fait aussi que... Ça aussi, on l'a oublié, c'est que c'était une région qui était très industrielle, en fait. Avant que la viticulture au 19e ne vienne, par une décision de l'État, devienne la monoculture qui a dominé toute l'économie de la région, au 17e, au 18e, c'était une région tout à fait avec beaucoup d'industrie, dont celle-ci.
Donc ça, c'est un peu une découverte, finalement, peut-être de Montpellier qu'on pense connaître.
Oui. Oui, c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est aussi d'aller un peu essayer de chercher des informations qu'on n'avait pas, parce que bon, après, il y a évidemment des histoires, entre guillemets, incontournables. Bon, on a parlé de l'histoire de Notre-Dame-des-Tables, il y a aussi bien sûr la faculté de médecine, il y a la grande révolte des vignerons en 1907, bon, tout ça, ce sont des grands événements. Après, j'ai essayé effectivement d'aller chercher des nouveaux.
Alors, en effet, vous nous faites part de tragédies, finalement. L'histoire en propose de nombreuses. Et pour le département de l'Hérault, après avoir lu votre livre, il me semble que c'est la croisade contre les albigeois pour l'élimination du catharisme qui semble vraiment avoir marqué d'une façon tragique le département, peut-être plus que tous les autres événements que vous relatez.
Oui, c'est vrai, effectivement, et c'est là, d'ailleurs, ça dépasse même notre département, là, c'est vraiment tout le sud de la France, puisque le catharisme était donc une hérésie, hein, on peut l'appeler comme ça, et qui a, au bout d'un moment, comme il avait de plus en plus de succès, on va dire, et ça a dérangé le pouvoir central, les cathares, donc, ont refusé, enfin, de se soumettre. Donc, ben, la réponse du pouvoir central, ça a été la guerre, évidemment, et l'invasion. Ça a été très, très, très violent. Bon, il y a eu là, j'aurais pu le raconter, mais j'ai choisi plutôt de parler de la résistance du village de Minerve. Mais il y a eu aussi le massacre de Béziers, qui est, vous savez, tuer les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est à Béziers que ça s'est passé, un massacre. Là, vraiment, et là où c'est effectivement, vous avez raison, c'est fondateur, parce que c'est aussi le. Il y avait toute une civilisation assez brillante qui s'était développée dans le sud, avec des troubadours, notamment avec l'amour courtois, le finamore. Et donc, en fait, cette révolte a été terminée dans le sang, et ça a beaucoup. C'est aussi le moment où, en fait, comme souvent dans l'histoire, c'est le nord qui gagne contre le sud, c'est-à-dire que c'est la civilisation. Du nord de la France qui s'est imposé dans toute la France et donc qui a tué aussi une grande partie de la brillante civilisation qui était ici. Donc c'est très important.
Alors ça, c'est un événement, vous l'avez dit, connu au-delà de notre département et même de notre région, mais vous abordez aussi des sujets comme le trésor d'un voilier, la Jeanne Élisabeth, qui a échoué à Palavas, et ça, ou encore l'arrivée du chemin de fer qui permet l'expansion du port de Sète. On s'attache là à des micro-événements qui vont donner aussi une autre, j'ai le sentiment de cela, une autre, comment dire, vision de ce littoral, de ce département qui joue entre le littoral et puis cet arrière-pays. J'ai l'impression que vous essayez de montrer les deux aspects de ce département, à la fois la vigne, à la fois ce littoral que vous présentez très bien dans le premier chapitre et après au-delà.
Oui, bien sûr. Ce département-là, il est construit comme ça, sur le littoral et sur un passage aussi. Alors, il y a le passage effectivement entre l'Est et l'Ouest, hein, mais aussi entre la montagne et la mer. Donc, et il s'est passé beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, en fait, c'est un peu, je reviens sur ce que vous avez dit au début, moi, à chaque fois, c'est une surprise, à la limite, on a toujours une vision, on pense que ce n'est qu'un petit département comme ça, et en fait, on s'aperçoit quand on creuse qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses, et qu'on peut, à la limite, à travers, en racontant l'Hérault, on raconte beaucoup de choses de l'histoire en général, en fait. Bon, celle du littoral, bon, j'aborde le fait que. Il y avait beaucoup de razzias, que le littoral était dangereux. Non seulement il était insalubre, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais il était dangereux aussi puisqu'il y avait des razzias. Et le fait que notre côte pratiquement pas de, soit une plage de sable sans fin, fait qu'elle était très difficile à protéger. Donc les villes du département, ça c'est encore visible aujourd'hui, se sont construites à distance de la mer en fait. Sauf Sète, mais Sète a été construit bien après. Sète a été construit au 17e. Il n'y avait rien, c'était un petit port avec des pêcheurs. Donc et toutes les villes, que ce soit Montpellier, Béziers, Pézenas, bon bien sûr Lodève encore plus, mais Lunel sont à distance de la mer.
Voilà, et ont donc une autre configuration finalement, un autre profil.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, on a oublié que ce littoral était très dangereux, parce qu'il y a aussi des tempêtes, parce que c'est pour ça qu'on appelle le golfe du Lion, très certainement, l'expression vient du fait que les tempêtes, ils sont dangereuses. Et il n'y avait pas moyen de protéger. Il y a très peu aussi à Agde, il y a une église fortifiée, parce qu'il y avait le volcan, et donc ça a permis vous savez, la cathédrale d'Agde est magnifique, d'ailleurs tout en basalte, mais c'est un des rares exemples, parce que ben, il y avait que du sable, et c'était difficile de se protéger.
Alors, nous l'avons un peu dit, cet ouvrage géographique, on peut dire, se construit en prenant des événements très anciens, qui datent de la préhistoire, jusqu'à des événements plus récents. Et du coup, vers la fin, on arrive à peut-être des événements plus anecdotiques. Vous allez parler de la Pointe Courte avec Hasset, avec Agnès Varda, ou encore à Marseillan, vous faites un clin d'œil à l'actualité nécrologique cinématographique. Donc, ça
Je
devient
savais pas
un peu
encore.
plus, un peu, comment dire, est-ce que je dirais léger? En tout cas, Voilà, on est moins dans l'histoire qu'il faut intégrer parce que passé, parce que difficile à se représenter peut-être.
Oui, de toute façon, je pense que l'histoire, elle est aussi faite de grandes forces, de grands événements, mais aussi de petits événements qui parfois ont des incidences plus grandes que ce qu'on pense. Enfin, plus je travaille là-dessus, plus je me rends compte que au-delà un petit peu des systèmes, il y a toujours beaucoup d'imprévus, et parfois des petits événements ont des grandes conséquences. Donc je trouvais aussi, bon, puisqu'il faut un petit peu de légèreté quand même, parce que dans l'ensemble, quand même, l'histoire n'est pas spécialement légère, donc j'ai trouvé intéressant de choisir quelques événements comme ça, plus festifs ou plus légers, mais qui donnent quand même un regard aussi sur le département.
Alors, de temps en temps, j'ai lu quelques incises historiques, littéraires, qui personnalisent un peu plus encore cette écriture que vous avez de fait, que vous êtes obligé d'avoir, une écriture descriptive. Par exemple, au tout début, vous parlez de la pratique de l'esclavage en nous disant que c'est la pratique la mieux partagée de la planète. Vous citez aussi Rabelais quand vous évoquez les bains de Balaruc. Alors, je me suis dit que finalement, peut-être, je me suis demandé si on vous avait pas demandé de faire court pour rentrer dans un format éditorial spécifique, 200 pages, 260 pages, pas plus, et que si on vous avait laissé faire, vous auriez amplifié ces références littéraires, ces références de la petite histoire et de la grande. Enfin, voilà, j'ai senti que on vous avait un peu bridé. Je ne sais pas, c'est une impression de lecture.
Oui, si, c'est juste parce que le format fait que, bon, il faut qu'il y ait entre 40 et 50 histoires, il y en a 45, et donc j'avais un nombre de caractères limité. Donc, en général, à la fin, pour entrer dans ce nombre de caractères, j'ai enlevé des informations, j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel. Alors, évidemment, ça implique... Bon, moi, j'aime bien aussi ce travail. C'est un travail d'écriture aussi qui est de vraiment d'aller, d'essayer de se concentrer sur vraiment le plus important. Bon, après, comme avant de faire ces récits historiques, j'ai écrit plutôt de la fiction, donc je suis un littéraire aussi. Donc, c'est pour ça que, comme vous l'avez noté, chaque fois que je peux faire une citation de Rabelais, de Maupassant ou de Saint-Simon, bien sûr, je ne me prive pas.
Ouais. Mais alors justement, vous avez fait 4 romans, 4 essais. Est-ce que les essais sont plus récents que les romans? Est-ce que c'est un choix, une préférence que vous avez quand même pour cette écriture-là?
Ben, c'est pas définitif. Là, par exemple, je suis parti sur complètement autre chose parce que, bon, des fois, c'est les hasards aussi de la vie qui ont fait que, bon, j'ai eu ces propositions d'écrire ces récits historiques. Bon, ça m'a plu. J'ai appris plein de choses et j'ai découvert, plus ça va, donc plus l'histoire m'intéresse. Mais, c'est pas définitif. Voilà, là, actuellement, je repars sur quelque chose de plus littéraire. Donc, voilà, c'est une étape. Mais je sais pas, il y aura peut-être d'autres ou peut-être pas, j'en sais rien à ce stade, quoi. Mais c'est pas un choix définitif de tourner une page.
Alors, j'ai noté aussi que dans ce livre, Les hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault, que je le répète, est publié au Papillon Rouge, il n'y avait pas de carte géographique du département. Et je me suis demandé si c'était un choix délibéré de ne pas avoir positionné dans le département ces lieux.
Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait pour travailler. Je me suis aidé d'une carte. Oui, c'est vrai que il y a des choix éditoriaux aussi qui sont, puisque ce livre, vous savez, s'inscrit dans des collections. Donc, voilà, apparemment, c'est pas le choix qui a été fait par l'éditeur. Mais c'est vrai que, bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup les cartes et j'aurais bien vu une carte. Bon, après, voilà, c'est pas quand même, bon, le département n'est pas immense. Hein, quand même, en général, on connaît les lieux, quoi. Donc, c'est pas.
Voilà. Oui, mais je peux imaginer que des personnes de passage prennent ce livre et puis se disent, tiens, je vais le suivre pour mon parcours dans l'Hérault.
Oui, c'est vrai, non, mais vous avez raison, c'est une bonne idée. Oui, oui, j'en parlerai à mon éditeur.
C'est ça. Alors, Alors donc, 45 hauts lieux de l'histoire du département de l'Hérault. Est-ce qu'il y en a trois qui sortiraient de votre liste maintenant que vous les avez travaillés, que vous en avez senti tout l'impact historique, oui?
En trois, ça c'est difficile. Hein.
Ah, combien? Ah,
oui. Je ne sais pas. Bon, il y a, bon, on a parlé de Montpellier. Il y a le, j'ai écrit un texte sur la féminité de Montpellier, oui. que je trouvais intéressant. Il y a, bon, après, j'aime beaucoup Sète aussi, donc l'histoire du Mont-Saint-Clair et de Pierre Soulages qui s'y est installé et qui a fait la découverte de l'Outre Noir. Par une nuit d'orage dans sa maison du Mont-Saint-Clair. Bon, après aussi, par mes origines, j'ai été touché aussi par la grande manifestation de Montpellier en 1907, la révolte dite des Gueux, oui. Où il y a eu quand même 600 000 personnes dans les rues de Montpellier, qui comptait 90 000 habitants à l'époque. Donc, si vous rapportez à la population d'aujourd'hui, c'est plus que considérable. C'est plusieurs millions de personnes dans les rues. Voilà. Donc, et c'est toute la, presque même au-delà du département, toute la région qui était en révolte à ce moment-là. Voilà, mais tiens, ça me fait trois, oui.
Bon, vous avez répondu. Alors, il y a aussi un lieu dont vous parlez qui, lui, n'existe plus, partiellement en tout cas. C'est le petit Versailles languedocien.
Oui,
qui a été disséminé. Donc c'est un peu la description par défaut. Enfin, vous racontez son histoire où il ne reste plus que des copies.
Oui, c'est le château Bonnier de la Mosson. Enfin, il en reste un petit morceau, mais enfin, c'est vrai qu'il a en grande partie été détruit. Oui, ça raconte aussi là une époque quand même assez florissante pour Montpellier, qui est le 18e avec ses folies, ce qu'on appelait ses folies. Et donc, le père et le fils Bonnier de la Mosson ont fait construire ce qui était le Versailles languedocien, un château somptueux, mais ça n'a duré qu'une trentaine d'années, et petit à petit, il a été détruit. Voilà, bon, ça c'est intéressant aussi, l'histoire, c'est ça aussi, c'est aussi des choses qui, à un moment donné, s'arrêtent et qui ne continuent pas, et donc, mais du coup, quand même, qui racontent beaucoup.
Il y a
aussi les...
Pardon ? Oui, il y a aussi les...
Voilà, exactement. Après, il y a aussi les châteaux Pinardier. Ça aussi, ça a été une découverte pour moi. Donc, autour de Béziers, Béziers était quand même la capitale du vin. Et la viticulture a énormément enrichi la ville et les alentours. Et donc, il y a eu comme ça. Alors, ce n'était pas les folies, mais c'était des châteaux, alors absolument baroques, qui ont été construits. C'est là, on est dans la deuxième moitié du 19e. C'est l'époque de Viollet-le-Duc, tout ça. Et donc, les gens, pour monter, tellement enrichi qu'ils se sont fait construire des châteaux aux alentours de Béziers. Alors, c'était néo-classique, néo-ceci, néo-cela. En fait, c'est parfois un peu ridicule, mais ça a un certain charme quand même. Et d'ailleurs, et là, au contraire du château Bonnier de la Mosson, il y en a quand même plusieurs qui sont toujours là. Voilà. Mais il y a des traces du passé comme ça qui sont intéressantes.
Alors, pour écrire un livre de 260 pages sur 45 lieux, est-ce que vous avez idée de la masse de documents que vous avez dû consulter?
Oui et non, parce que bon, il y a beaucoup de livres que j'ai empruntés, notamment à la médiathèque, donc mais ça fait effectivement beaucoup de papier, beaucoup de livres, donc parfois on prend que quelques lignes, quelques pages, mais bon, c'est puisque j'avais le temps, autant avoir le plus de sources possibles. Après, quand on creuse un événement, on a envie d'en savoir plus. Et de, voilà. Alors après, donc comme il y en a 45, effectivement, bon, à un moment donné, je ne peux pas aller trop loin, je suis obligé de passer à un autre sujet. Donc, je ne peux pas non plus... Bon, voilà, je ne suis pas non plus un historien. C'est quand même être juste. Donc, mais il y a un travail de recherche extrêmement important. Oui.
45, c'était le chiffre qui vous avait été donné au départ?
Oui, en fait, c'était bon. Il y a eu, bon, après, il y a eu le confinement aussi du mois de mars qui m'a un peu bloqué. Donc, on était entre 40 et 50, et puis finalement, on s'est arrêté à 45.
Y a-t-il des lieux qu'on n'a pas évoqués? Bien sûr, on ne les a pas tous évoqués, cela va de soi, mais sur lesquels vous aimeriez revenir? Oui, par exemple, je me suis aussi beaucoup intéressée au camp de la Retirada dont vous avez parlé.
Oui, ça c'est intéressant aussi parce que c'est une histoire qui a été longtemps occultée. On parle de la Retirada il y a quoi, depuis une dizaine d'années, on va dire, 5-10 ans. C'est en 1939, donc quand Franco a peu à peu remporté la victoire contre les républicains espagnols, il y a eu tout un afflux de réfugiés qui ont passé la frontière, mais vraiment plusieurs centaines de milliers. Et on a commencé par construire des camps dans les Pyrénées-Orientales, puisque c'est là qu'ils arrivaient, mais qui vite sont avérés pas insuffisants. Donc on en a construit notamment un grand, très important à Agde, qui s'appelait le camp des Catalans. Et bon, après, malheureusement, ce camp a servi aussi de camp de concentration. Voilà, donc là, c'est l'histoire au plus dur, quoi.
Oui.
Après, il y a aussi le village de Celles, qui est assez intéressant aussi. C'est au moment de
Le
la
lac du
création
Salagou.
du lac du Salagou. Ce village a été englouti pour rien, puisque finalement les eaux puisque c'est une retenue, bien sûr, qu'on a construit, sont arrivées. On pensait que le village allait être englouti, donc il a été évacué, et en fait, il s'est arrêté juste en dessous. Mais c'est passionnant aussi parce que ce village est en train de revivre. Malgré tout ça, donc il y a des gens enfin, qui se sont battus, qui se battent encore, et qui ont fini par gagner la partie. Le village est en train lentement de revivre.
Une autre
Et ça a
histoire pour
donné lieu.
commencer.
Oui, ça a donné lieu parce que quand même, malgré tout, c'est un lieu assez magique, le lac du Salagou. C'est assez étonnant, quoi. C'est complètement artificiel. Même si ça a donné lieu à une histoire en partie tragique, bon, ça, c'est, voilà, je trouve ça intéressant. Ça donne lieu à ce lieu qui est quand même assez merveilleux et qui s'est bien inscrit dans son paysage, en plus.
Souhaitez-vous évoquer un autre lieu ou
Je crois qu'on en a évoqué pas mal. Bon, après, il y a la Fée d'Ibiou, et la Lunel aussi. J'évoque bien sûr le taureau. Bon, il y a la découverte de la grotte des demoiselles qui est assez étonnante à Ganges aussi. Bon, il y a aussi l'épopée de l'association sportive de Béziers qui a été longtemps champion de France de rugby. Enfin, voilà, bien sûr la médecine à Montpellier, mais là, on pourra en parler longtemps. Voilà.
Merci, merci Raymond Alcover pour cet entretien autour des hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Le Papillon Rouge et qu'on peut bien sûr se procurer dans toutes les librairies de l'Hérault et ailleurs. Merci
Merci
encore.
beaucoup à vous.
Au revoir.
À bientôt. Au
À
revoir.
bientôt.
Merci.